VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du mardi 16 août 2016. Au sommaire ce soir...
RDC, massacre de Beni, le Premier ministre Matata Mponyo s'est rendu dans l'Est pour une évaluation de la situation.
Présidentielle au Gabon, deux ténors de l'opposition se rangent derrière le candidat Jinping.
Manifestation en Zambie contre la réélection d'Edgar Lungu à la présidence. Plus de 150 personnes ont été arrêtées.
Turquie, le pouvoir réclame une peine de 1900 ans contre le prédicateur Fethullah Gülen, accusé d'être l'auteur du putsch manqué du 15 juillet.
Ne manquez pas notre segment sur la présidentielle américaine.
Et plein feu sur les Jeux Olympiques juste après le journal.
Massacre dans l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs dizaines de personnes tuées ce week-end à Beni ont été enterrées. Les familles des victimes n'ont pas attendu les obsèques officielles. Selon la société civile, un total de 51 civils ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche dans une attaque attribuée à des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées. Un deuil national de 3 jours a été décrété par le gouvernement, dont le chef s'est rendu sur place. Reportage en seconde partie d'émission.
Au Gabon, deux poids lourds de l'opposition se rangent derrière Jinping pour tenter de déboulonner le président sortant Ali Bongo Ondimba lors de l'élection présidentielle du 27 août. Idriss Fall.
Guy Nzoubandama et Casimir Oyemba, deux ténors de l'opposition gabonaise, ont décidé de s'aligner derrière Jinping après une séance de travail jusqu'à 3 heures du matin. Monsieur Ping, 73 ans, ancien président de la Commission de l'Union africaine, se présente maintenant comme le candidat unique de l'opposition pour faire face au président sortant Ali Bongo Ondimba. Il a été plusieurs fois ministre sous le président Omar Bongo. Monsieur Nzoubandama, 70 ans, a été président de l'Assemblée nationale jusqu'à sa démission au mois de mars. Et Casimir Oyemba, 74 ans, a été, quant à lui, premier ministre d'Omar Bongo, puis gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Ils sont tous des caciques de l'ancien régime qui sont passés dans le camp des opposants. Au total, 14 candidatures ont été validées pour l'élection présidentielle du 27 août, qui est un scrutin à un seul tour.
Manifestation à Conakry, en Guinée. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont défilé sur 15 kilomètres aujourd'hui à l'appel de l'opposition.
Cette vague d'interpellations en Zambie, quelques 150 personnes ont été arrêtées dans le sud du pays. Leur faute ? Avoir manifesté contre la victoire lundi à la présidentielle d'Edgar Lungu, le président sortant. Bagassikoura.
Dès l'annonce officielle lundi des résultats donnant le président sortant Edgar Lungu vainqueur de la présidentielle avec 50,3% des voix, des manifestations ont spontanément éclaté dans la province méridionale du pays. C'est un bastion de Hakainde Hachilema, l'opposant battu avec 47,6% des voix. Beaucoup dans cette province ne s'attendaient pas à une défaite du candidat de l'opposition. Des émeutes ont donc éclaté dans plusieurs villes de la région, conduisant à l'arrestation de 150 personnes. C'est ce qu'indique le commissaire de la province, Godwin Firi. Dans un communiqué, il précise que les manifestants ont bloqué les routes avec des troncs d'arbres et des pneus en feu. L'UPND, le Parti uni pour le développement national de Hichilema, a annoncé dès lundi qu'il allait contester le résultat devant les tribunaux, assurant avoir des preuves de la manipulation des chiffres. Selon la Constitution, le président Edgar Lungu ne peut prêter serment avant que ce litige ne soit réglé.
La justice éthiopienne a inculpé 23 réfugiés sud-soudanais. Ils sont accusés d'avoir tué 10 Éthiopiens à Gambela en avril au cours d'affrontements intercommunautaires. C'est ce qu'a rapporté la station de radio Fana.
Afrique du Sud, les principaux leaders des partis d'opposition se sont rassemblés à Marikana pour commémorer le massacre de 34 mineurs en grève commis il y a 4 ans par la police. Cérémonie à laquelle l'ANC au pouvoir n'a pas assisté.
En Libye, la bataille pour le contrôle de Sirte se poursuit. Les forces du gouvernement d'Union nationale disent avoir repris l'un des derniers secteurs tenus par le groupe État islamique dans cette ville côtière dont s'étaient emparés les djihadistes.
Lutte contre le groupe État islamique au Maroc. 4 sympathisants présumés de l'organisation djihadiste ont été arrêtés. C'est ce qu'annoncent les autorités. Ils sont accusés d'avoir planifié des attentats à Casablanca.
Les forces de sécurité marocaines mènent depuis dimanche une vaste opération de lutte contre la contrebande près de la Mauritanie. C'est ce qu'indique l'agence de presse officielle MAP dans un climat de tension croissante entre les deux pays. Ces opérations ont permis l'évacuation de 3 points de rassemblement de carrosseries de voitures et de camions d'occasion et la saisie de 600 voitures selon l'agence.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le parquet turc a requis 2 peines de prison à vie à l'encontre de l'ex-imam Fethullah Gülen, accusé d'avoir, on dit, le putsch avorté du 15 juillet. Nathalie Barge.
Le prédicateur qui vit en exil aux États-Unis depuis 1999 et dont Ankara réclame l'extradition est accusé d'avoir tenté de détruire l'ordre constitutionnel par la force et formé et dirigé un groupe terroriste armé, rapporte l'agence de presse Anadolu. Une peine supplémentaire de 1900 ans d'emprisonnement est aussi requise à son encontre. Fethullah Gülen nie toute implication dans le coup de force. Il est accusé depuis des années d'être à la tête d'un réseau terroriste appelé FETÖ qui aurait infiltré les institutions et services de renseignement. La FETÖ aurait collecté des fonds d'hommes d'affaires sous couvert de dons et transféré cet argent aux États-Unis via des banques aux Émirats Arabes Unis, en Afrique du Sud, en Tunisie, au Maroc, en Jordanie et en Allemagne. Une enquête a été ouverte en septembre 2015. 111 personnes ont été visées et 13 suspects sont toujours en détention préventive.
En Angleterre, un prédicateur radical encourt une peine de 10 ans de prison après avoir été reconnu coupable par un tribunal de Londres d'avoir appelé à soutenir le groupe État islamique. Anjem Chaudhary, un avocat de 49 ans, et son co-accusé Mohamed Rahman, 33 ans, ont prêté allégeance au chef de Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, et avait appelé à soutenir le groupe dans des vidéos postées sur YouTube.
Pour la première fois, l'aviation russe a utilisé une base en territoire iranien pour lancer des raids en Syrie. Nani Talani nous en dit plus.
Le ministère russe de la Défense a annoncé que des avions russes sont partis d'une base aérienne iranienne pour des raids contre des militants du groupe État islamique en Syrie. Il s'agirait probablement de la base de Shahid Nojeh qui a, par le passé, accueilli des bombardiers russes. Pour l'amiral Vladimir Komoyedov, ancien combattant de la flotte russe en mer Noire et membre du Parlement russe, que cite l'agence Interfax, l'utilisation des bases en Iran est un bon moyen pour Moscou de réduire les dépenses. Les Russes ont activé un canal de communication avec la coalition menée par les États-Unis peu avant les raids aériens en Syrie et les opérations de la coalition n'ont pas été affectées, a expliqué pour sa part le colonel Christopher Garver, porte-parole militaire américain à Bagdad. Selon des groupes de l'opposition, des frappes aériennes contre la ville de Deir Azour ont fait 10 morts et d'autres raids sur Alep ont tué au moins 19 civils.
Crise en Ukraine, le président français François Hollande appelle les partis à se garder de toute escalade et à respecter les accords de Minsk. La tension s'est accrue ces derniers jours entre Kiev et Moscou, notamment à la suite de déclarations russes accusant le ministère ukrainien de l'Intérieur de s'engager dans une campagne de provocation. Les deux pays ont augmenté leur présence militaire le long de la frontière.
Des affrontements entre réfugiés palestiniens et soldats israéliens ont fait 1 mort ce mardi dans le sud de la Cisjordanie occupée. Selon le ministère palestinien de la Santé, le jeune Mohamed Abou Achash, âgé de 17 ans, est mort après avoir été atteint par balle dans la poitrine. L'armée israélienne multiplie les opérations en Cisjordanie à la recherche d'ateliers d'armement, provoquant la colère de la population. Le Croissant Rouge a fait état de 25 blessés.
Moins de 3 mois avant l'élection présidentielle américaine, le scrutin est prévu le 8 novembre, de nombreux analystes disent maintenant qu'il y a plus de 80% de probabilité que la démocrate Hillary Clinton, ancienne secrétaire d'État et ancienne première dame, l'emporte sur le républicain Donald Trump. 3 débats réguliers entre Clinton et Trump en septembre et en octobre pourraient changer les fortunes des deux candidats. Mais pour le moment, les analystes voient la course basculer lourdement en faveur de Mme Clinton, avec son avance constante de 7 points, sinon davantage, dans les sondages nationaux et des marges de plus en plus grandes dans les États clés où l'issue du scrutin sera décidée, par exemple en Pennsylvanie, dans l'Ohio, en Floride, dans le Wisconsin, dans le Colorado. Nous reviendrons sur la campagne électorale américaine un peu plus tard, en fin d'émission.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et sur voaafrique.com. Le journal des JO sur VOA Afrique avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Les premiers résultats de ce mardi pour l'Afrique.
Meilleur temps des séries du 5000 mètres pour l'Éthiopienne Almaz Ayana, déjà championne olympique du 10000 mètres. En revanche, déception pour la Congolaise Béatrice Alice Kamuchanga sur la même distance. Elle a terminé 17e et dernière de sa série sur 5000 mètres en 19 minutes 24 secondes. Elle n'a même pas réussi à égaler son propre record. Elle est donc éliminée dès les séries. Deuxième temps des séries du 1500 mètres pour le Kenyan Ronald Kemwoy en 3 minutes 38 secondes et 33 centièmes. À suivre tout à l'heure les Angolaises qui affrontent la Russie en quart de finale du tournoi de handball.
Sur 200 mètres, Bolt toujours numéro 1.
Le septuple champion olympique Usain Bolt s'est très facilement qualifié pour les demi-finales, ainsi que l'américain Justin Gatlin. L'américain LeSean Merritt, médaillé de bronze sur 400 mètres dimanche, s'est lui aussi qualifié pour les demi-finales en remportant sa série. Bolt, champion olympique du 100 mètres pour la troisième fois consécutive, a complètement contrôlé sa série, coupant son effort aux 50 mètres pour s'imposer en 20 secondes et 28 centièmes.
En triple saut,
l'américain Christian Taylor a conservé son titre olympique du triple saut en franchissant 17,86 m au premier essai. Il devance comme à Londres son compatriote Will Clay et le chinois Dong Bin. Le malien Mamadou Chérif Dia, très loin derrière, à 16,45 m. Hugues Fabrice Zango, le burkinabé, à 15,99 m.
David Rudisha est toujours le roi incontesté du 800 mètres.
Champion olympique en titre, David Rudisha a gardé sa couronne en remportant la finale du 800 mètres à Rio hier soir. David Rudisha, intouchable en 1 minute 42 secondes et 15 centièmes, remporte son deuxième sacre olympique d'affilée. Le point avec Jean-Roger Billon.
C'est le jeune Kenyan Alfred Kipketer qui a pris la tête aux 150 mètres de cette finale avec un passage canon aux 400 mètres en 49 secondes 23 centièmes. Rudisha a pris l'initiative au milieu de la ligne opposée pour creuser l'écart. Le Kenyan David Rudisha a conservé le titre sur 800 mètres et l'emporte en 1 minute 42 secondes 15 centièmes nettement devant l'Algérien Taoufik Makhloufi, 1 minute 42 61 centièmes et le jeune Américain 1 minute 42 93 centièmes. Champion olympique du 1500 mètres à Londres, Makhloufi a mis à profit sa résistance et son finish pour s'emparer de la médaille d'argent avec un nouveau record national. Rudisha, âgé de 27 ans, avait conquis l'or à Londres en prenant la course à son compte pour améliorer son record du monde, 1 minute 40 secondes 91 centièmes. Il a prouvé à nouveau sur la piste brésilienne qu'il était bien le roi incontesté de 800 mètres depuis 4 ans.
Et puisqu'on parle d'athlétisme, le Mali avait une athlète qui courait le 400 mètres cette semaine.
Malgré son élimination dès les séries, Djenebou Dante s'est dit très satisfaite de sa participation aux Jeux Olympiques 2016 au micro VOA Afrique.
Bon, ma participation aux Jeux Olympiques, je suis très contente et très fière. C'était mon objectif cette année de participer aux Jeux Olympiques et je suis venue, je suis très contente. Je suis très contente de courir aux Jeux Olympiques. C'est une première expérience pour moi et j'ai pas pu quand même atteindre mon objectif, mais qui était de battre mon record, mais je suis très contente. Et ça va me servir d'expérience pour le prochain jeu et pour le championnat du monde l'année prochaine. Ça va me servir d'expérience pour Tokyo. Et à Tokyo, je sais que ça va marcher.
Djenebou Dante, coureuse du 400 mètres, au micro d'Alvaro Andrade, l'envoyé spécial de VOA à Rio.
Et demain ?
La demi-finale des Nigérians en football contre l'Allemagne dans le tournoi masculin. Les footballeurs nigérians disputeront les demi-finales des Jeux Olympiques pour la troisième fois après la médaille d'or de 1996 et la médaille d'argent de 2008. Avec 19 buts inscrits en 4 matchs, la sélection allemande a la meilleure attaque des Jeux Olympiques et le meilleur buteur du tournoi olympique. Il s'appelle Serge Gnabry, c'est un attaquant d'origine ivoirienne. Il joue pour Arsenal, il a déjà marqué 6 buts. Sur 1500 mètres, l'Éthiopienne Genzebe Dibaba espère remporter l'or demain. Et on rappelle qu'au classement des médailles, les États-Unis sont toujours premiers devant la Grande-Bretagne et la Chine.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barche.
Le gouvernement d'union nationale libyen a nommé un comité intérimaire pour gérer les 67 milliards de dollars du fonds souverain qui sera dirigé par Ali Mahmoud Hassan Mohamed. L'autorité d'investissement libyenne a engagé des poursuites judiciaires contre Goldman Sachs et la Société Générale pour la perte de milliards de dollars dans des transactions opaques sous le régime Kadhafi. Selon les termes d'un accord récent, Valco Energy s'engage à acquérir les 3,23% d'intérêts détenus par la société japonaise Sojitz dans le bloc offshore des Tames marins au Gabon. Valco détiendra ainsi une participation de plus de 31%. Le bloc produit 19 000 barils par jour à hauteur de 93 millions de barils depuis sa mise en service en 2002. Le constructeur aéronautique Bombardier va délocaliser une partie de ses activités irlandaises au Maroc afin de réduire les coûts de production, rapporte le Belfast Telegraph. Le groupe canadien s'est engagé à investir 200 millions de dollars dans le site de Meat Park près de Casablanca, qui devrait compter 850 salariés d'ici 2020.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgane Guériec et Chérubin Gabit-Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour, au premier escale, la RDC.
Augustin Matata Mponyo en visite à Beni ce mardi. Le premier ministre de la RDC s'est rendu dans cette ville du Nord Kivu où une cinquantaine de personnes ont encore été massacrées dans la nuit de samedi à dimanche. Les attaques perdurent dans le territoire de Beni et les habitants sont en colère face à l'impuissance des autorités pour les arrêter. Nicolas Pino a joint Nikes Kibelbel Oka, directeur du journal Les Coulisses.
L'ambiance est toujours morose parce que les deuils continuent. Vous savez, le gouvernement avait décrété 3 jours de deuil. La délégation est arrivée et elle a visité les lieux où on a tué. Elle est maintenant au niveau de la mairie pour discuter un peu avec le comité urbain de sécurité. Mais le problème va au-delà de cette visite. Le président Kabila a été ici 3 jours avant les tueries. Je pense que pour la population, sa présence n'est pas nécessaire. Au moment où il a envoyé la délégation qui pourrait trouver des solutions au problème, le président est à Goma, c'est la capitale du Nord Kivu. Pour la population, ce qui compte, c'est qu'on mette fin au massacre. Le président avait promis et on attend des moyens.
Justement, quel est l'état des moyens des forces de sécurité sur place à Beni?
L'état des moyens, c'est faible. Parce que d'abord, les opérations durent 2 ans. Il n'y a jamais eu d'évaluation de troupes. Et on ne sait pas, il y a eu combien de morts, combien de blessés. Il faut faire une évaluation. Ça, c'est de 1. Et il faut faire la relève des troupes. Il faut équiper la police urbaine et la police militaire pour intervenir. Vous savez, la ville elle-même, la police n'est pas équipée. La police n'a même pas un véhicule pour faire la patrouille. La police militaire, même chose. Donc, il faut d'abord qu'on pense à doter la police urbaine et la police militaire des véhicules pour intervenir au moment où la population a besoin de ces services. Il y a des bataillons qui n'ont plus l'effectif voulu. Donc il faut vraiment faire tout un toilettage pour comprendre il y a combien de militaires au front et en ajouter d'autres en cas de besoin.
Concernant l'identité des assaillants, les ADF Nalu, ces rebelles ougandais, sont souvent pointés du doigt. Est-ce que vous croyez à cette thèse?
Oui, il faut dépasser cette appellation des rebelles ougandais. C'est le djihad qui est régional parce que le recrutement s'est fait en Tanzanie, au Kenya, au Sud-Soudan, en Ouganda et en RDC. Et il faut arriver à monter au deuxième palier pour comprendre que le terrorisme qui se passe ici est régional. Ce n'est plus un problème des rebelles ougandais. C'est vraiment régional. Il y a 5 ou 6 ou 8 nationalités qui se retrouvent dans les forêts de Beni.
Nikes Kibelbel Oka, directeur du journal Les Coulisses.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Gabon, Guy Nzouba Ndama et Casimir Oyemba, deux ténors de l'opposition, ont décidé de s'aligner derrière Jinping pour faire face à Ali Bongo Ondimba lors de l'élection présidentielle du 27 août. Les trois hommes ont tenu aujourd'hui un grand meeting à Libreville pour mobiliser les troupes en vue du scrutin à un seul tour. Idriss Fall a joué sur place notre confrère Abel Mimongo du journal L'Union, le quotidien national gabonais.
Je suis même justement dans ce meeting-là. Les leaders de l'opposition sont arrivés. Hier, il y avait des tractations de couloir qui ont duré jusqu'à 4 du matin. Tractations au cours desquelles les principaux leaders de l'opposition ont décidé de rallier Jinping, à savoir M. Guy Djoubandama, qui est un grand juge du PDG. Il a créé Héritage de Modernité. Il y a Casimir Oyemba, qui était un ancien Premier ministre et militant de l'Union nationale, le parti du défunt André Mbaba et Zakari Mboto. L'Union nationale a ceci de particulier, c'est la principale formation politique de l'opposition. Ayant justement l'Union nationale, Guy Djoubandama qui est une personnalité qui avait Héritage de Modernité et ils sont un courant du PDG, donc voilà, ils vont faire alliance avec M. Jinping.
Est-ce que vous pensez que ce sera assez pour faire basculer la balance et prendre le pouvoir à Ali Bongo Ondimba?
Même bien avant le ralliement, M. Ali Bongo disposait de très peu d'atouts, mis à part l'atout institutionnel, puisqu'il disposait de la machine institutionnelle, la machine administrative. Donc il comptait davantage sur cette machine-là plutôt que sur l'adhésion de la population. Maintenant, au cas où l'idée serait de passer en force, ils auraient vraiment du mal à faire passer la pilule, puisque au Gabon, ça a toujours fonctionné sous forme de personnalité. Vous savez, M. Omar Bongo Ondimba, donc le prédécesseur de M. Ali Bongo Ondimba, lui, il fonctionnait sur la base des personnalités par région. Et chaque personnalité représentait une région bien déterminée. Et il y a une fraction terrible au sein du PDG. Et donc, les populations s'appuient justement sur cette personnalité-là. Mais sur quelle personnalité Ali Bongo va-t-il s'appuyer pour avoir une garantie de l'élection? Là, c'est toute la question qui se pose en ce moment.
Ils sont tous d'anciens caciques du régime d'Omar Bongo. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de nouveau?
Vous savez, la population aujourd'hui ne cherche pas à savoir si ceux qui arrivent vont leur apporter quelque chose de positif. C'est dommage de le dire, mais c'est la stricte vérité. La population en a marre de savoir que c'est la famille Omar Bongo qui est au pouvoir depuis 50 ans. Ils ont besoin de changement. Est-ce que ce changement va leur apporter quelque chose de positif? Là, c'est toute la question qui se pose.
À chaque élection, après les résultats, il y a des violences, surtout à Port-Gentil. Il n'y a pas de risque pour cette élection?
Ah oui, le risque est très fort. Effectivement, si M. Ali Bongo décide de passer en force, le risque est très, très fort d'une explosion vraiment généralisée. Alors là, ça ne sera pas seulement à Libreville ou à Port-Gentil, ça va être dans l'ensemble du territoire.
Abel Mimongo, du journal L'Union, quotidien national gabonais.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
À Brazzaville, un ingénieur biotechnicien, Tsenge Tsenge, a mis au point une technique de production des champignons. Désormais, il est facile pour un ménage d'acheter un kit à la congolaise de biotechnologie et de récolter ses champignons à volonté pendant des semaines. Les populations en raffolent, nous dit notre correspondant Nguelan Goussou.
Étagère géante, odeur de sueur de bois, une maison à étage mais en bois, implantée à Mongali en plein cœur de Brazzaville. Bienvenue chez Tsenge Tsenge, le patron de la Congolaise de biotechnologie, l'homme qui produit les champignons pour les compatriotes.
Cette unité est une unité démonstrative pour la production des champignons. Alors on va vous montrer grosso modo comment le processus a lieu de production, quoi disant, de ces kits. Voilà, le bois et le sang de blé, ce que vous voyez ici, que nous mélangeons avec les copeaux qui ont été broyés. Et vous voyez, tous ces sachets sont prêts à aller à la pasteurisation, qui est une opération qui permet d'éliminer l'essentiel, ça ne tue pas tout, mais ça élimine l'essentiel des microbes. Dès que le kit est prêt comme ça à la fructification, donc en fait, pour les gens qui achètent les kits de production de champignons, ils n'ont qu'environ 8 à 10 jours pour obtenir leurs champignons, les consommer.
Drapé dans une blouse blanche, des yeux intelligents derrière des lunettes de scientifique, Tsenge Tsenge, crâne rasé, a de quoi défendre le gabarit d'un biotechnicien plutôt que celui d'un bon débrouillard.
On peut dire que ma formation d'ingénieur de l'École centrale de Paris, j'ai fait la dernière année dans le domaine des biotechnologies. Voilà.
Mais l'homme est bien connu sur la place de Brazzaville pour avoir construit des bateaux de pêche. Jamais un Congolais n'a réalisé un tel exploit au pays. une aventure qui s'est malheureusement mal terminée.
Il y a eu beaucoup d'entraves, pour des raisons politiques, et c'est triste, mais elle va être ressuscitée. Elle va ressusciter en Afrique du Sud. Et c'est un peu, si vous voulez, pour moi, ça demeure la chose la plus importante.
Aujourd'hui, Tletsenga rebondit sur la production de champignons et des consommateurs ne tarissent pas de témoignages.
C'est bon, ces champignons-là, je les ai achetés une fois ou deux fois déjà, j'ai préparé, il n'y a pas de différence entre les autres champignons.
Mais c'est un goût très bien, c'est comme les champignons, mais c'est très tendre, hein. C'est très doux, c'est pas dur, il y a un goût vraiment des champignons. Je le prépare avec le poisson fumé, avec le foumbois, je le prépare avec le poisson d'eau douce.
Vous voyez le parfum de la forêt. Vous êtes au village quoi, quand vous mangez ces champignons-là. Et les enfants ont adoré, et les grandes personnes aussi. Et les gens ne croyaient pas quand j'ai emmené mes deux sachets. J'ai dit, mais voilà encore une folie. J'ai dit, non, ça, c'est une folie positive.
Légumes très prisés dans le pays, les champignons pourront être cueillis à volonté et consommés en toute saison. Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
Présidentielle américaine 2016, nous revenons un peu plus en profondeur sur un point évoqué hier par le candidat républicain Donald Trump dans la présentation de sa politique étrangère. S'il était élu, a-t-il déclaré, il mettrait fin à la stratégie actuelle d'édification des nations et de changement de régime. Jacques Aristide, c'est une stratégie décriée par beaucoup, dont nul autre que la cible des critiques de Trump, le président Barack Obama.
En fait, c'est le prédécesseur de l'actuel locataire de la Maison-Blanche, le républicain George W. Bush, qui a engagé les États-Unis au programme de Nation Building, d'importants projets d'édification de la nation entamés en Irak et en Afghanistan notamment. Le président Obama a lui rejeté cette stratégie, tout en tentant tout de même d'y maintenir suffisamment d'influence américaine pour éviter que ces deux pays tombent en ruine. Pour les observateurs, l'approche d'Obama peut ne pas avoir apporté ses fruits, mais il ne s'agit pas du concept édification de la nation à la bouche. Alors qu'il veut se débarrasser de cette initiative, le candidat Trump a toutefois fait savoir qu'il était en faveur d'une chose, la saisie de la richesse pétrolière de l'Irak après l'invasion américaine en 2003 qui a renversé Saddam Hussein. Il aurait fallu des troupes américaines pour protéger le pétrole et le bénéfice aurait été clair aujourd'hui, s'il l'a dit, ce qui d'après lui aurait empêché la montée du groupe État islamique en Irak en le privant d'une importante source de financement et les Américains auraient ainsi pu profiter du pétrole irakien.
Justement Jacques, pour les analystes, cette proposition de Donald Trump est le contraire même du concept de nation building, car cela aurait fait de l'Irak une colonie américaine de facto.
Effectivement, même si les observateurs lui donnent raison à propos du fait que le groupe État islamique a capitalisé sur le vide politique et sécuritaire en Irak en 2014, ils doutent néanmoins qu'une longue occupation militaire américaine, visant notamment à retenir et exploiter les ressources pétrolières irakiennes, aurait conduit à la stabilité en Irak. Pratiquement à la fin de son mandat, George W. Bush avait négocié un accord avec le gouvernement irakien, appelant toutes les troupes américaines à quitter le pays en décembre 2011. Le président Obama, soutenu par son premier secrétaire d'État Hillary Clinton, a par la suite respecté ce calendrier, estimant qu'il était nécessaire pour les Irakiens de prendre leur destinée en main, à l'heure où Washington accordait son attention à d'autres besoins pressants, ce que Barack Obama appelait alors l'édification de la nation irakienne. Ici même aux États-Unis. Cependant, les politiques irakiens, de leur côté, n'ont jamais pu surmonter les divisions sectaires, sapant l'armée irakienne et la rendant une cible facile pour le groupe État islamique.
Merci Jacques Aristide. C'est la fin de cette édition. Merci Lionel Gaïma d'avoir dirigé la mise en onde avec l'assistance de Wagner Robert à la console. Présentation Morgane Guiriec et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos près de 1 700 000 fans sur Facebook. On maintient la conversation. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Anjamena sur 93.1 FM.
Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.